Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean. Arnaud est malade, nous sommes en mai, je n'ai pas d'Apple Watch et vous peut-être non plus, mais vous écoutez papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Et aujourd'hui, c'est le 19e épisode sans Arnaud, vous l'avez entendu. Il est malade, on pense très fort à lui, il a une gastro canadienne. Alors je ne sais pas si c'est la même que la gastro française, mais en tout cas, il avait l'air passablement en mauvaise forme quand j'ai pu échanger avec lui. Donc, bon rétablissement à lui. Quoi de neuf depuis le mois dernier ? Eh bien, le dernier podcast a fait pas mal d'écoutes. Je pense que c'est notamment grâce à mon invité et aussi aux diverses façons que j'ai pu faire de la pub pour justement cette interview. Donc j'espère que les gens qui nous auront découvert avec cette interview sont au rendez-vous ce mois-ci pour un nouveau podcast et plein d'infos intéressantes et des jeux. Alors au sommaire, on aura des news bien fournies. Je vais faire deux jeux. Arnaud n'est pas là et donc je vais faire un jeu. Enfin, une série de jeux. Vous savez que c'est The Witcher qui sort The Witcher 3 pardon qui sort le 19 mai. Et donc j'ai décidé, en attendant, de vous conseiller le 1 et le 2, et je vais vous dire pourquoi. En attendant le 3e, si jamais vous voulez, si jamais ça vous tente. Et ensuite, je ferai une série de petites apps pour iPad qui sont pour les enfants. Et on aura Parole de Gamer avec aujourd'hui, je vais vous emmener dans un monde que nous, en tant que parents, on connaît, en tant que jeunes parents, on connaît assez peu. Et j'ai appris des choses, j'espère que vous allez en apprendre aussi. Et pour Et quoi d'autre, on va terminer avec une série. Commençons tout de suite avec les news. Alors les news pour ce mois-ci, eh bien on vous parlait la dernière fois du DLC de This War of Mine. Vous savez, c'est le DLC qui avait la qualité d'être caritatif. Donc on donnait ce qu'on voulait, soit 99 centimes, 9,99€ ou 19,99€. Et l'intégralité des recettes était reversée à une association pour aider les enfants. Eh bien, le DLC de This War of Mine a pu aider 350 enfants affectés par le conflit syrien. Donc, une initiative très chouette qui finit avec un très beau score. Et donc, on demande à avoir encore plus de choses comme ça, c'est très bien. Sur le site jeuxvideo.com, je suis tombé sur un article très intéressant, un super article écrit par Noumaillet qui pose la question « Le jeu vidéo peut-il être une œuvre d'art ?» Je pense que vous connaissez ma réponse, mais allez jeter un coup d'œil, cet article, il est vraiment hyper bien écrit, il est bien foutu, il est argumenté, c'est en plusieurs parties, le produit culturel du 21e siècle, les fausses idées sur le jeu vidéo, c'est commercial, c'est pas de l'art, c'est purement esthétique, etc. Enfin, donc il reprend les clichés, il voit ce que des fois il les appuie, souvent il les démonte, et puis pour parler du statut du jeu vidéo aujourd'hui. Donc allez lire ça. C'est sur jeuxvideo.com, allez dans Google, alors déjà c'est sur les notes de l'émission, mais dans Google, un jeu vidéo peut-il être une œuvre d'art, et vous tombez dessus quasiment directement. Ensuite, toujours sur jeuxvideo.com, un certain Edouard s'est mis en tête, alors c'est un joueur et un voyageur. Il a créé une rubrique sur jeuxvideo.com qui s'appelle Joueur du monde. En fait, donc Edouard voyage dans le monde s'est mis dans la tête de visiter 12 pays pour y étudier les habitudes et les difficultés rencontrées sur les acteurs locaux du jeu vidéo. Et alors l'article sur lequel je suis tombé traitait des jeux vidéo et des femmes en Iran. Lisez-le, c'est très instructif et on voit, enfin, quand on parle de jeux vidéo et des, enfin, à un homme quand on parle de femmes et de jeux vidéo, le premier réflexe d'un homme est de rire. Donc, allez lire ça. Ou à l'heure où vous écoutez ce podcast, il doit y avoir encore plus d'articles. Il n'y a pas un seul article par pays, hein, mais c'est une initiative très très chouette et ça vaut le coup d'aller lire. On apprend plein de choses sur les industries parallèles, sur les habitudes d'un pays par rapport au piratage, etc. C'est très instructif. Donc pareil, dans les notes de l'émission, il y aura le lien direct. Ensuite, un petit peu plus léger. Vous avez sans doute entendu parler comme ça par hasard que ça y est, Game of Thrones est reparti. Donc un petit peu avant que la série ne reprenne, je suis tombé sur un truc sur YouTube qui s'appelle Game of Hyrule. Alors Game of Hyrule, en fait, c'est juste le générique de Zelda. Alors c'est Zelda 3. Et quelqu'un s'est amusé à faire le générique de Zelda avec un visuel de Game of Thrones. Et donc on voit la map de Zelda 3 qui se crée à la manière du générique de Game of Thrones. C'est très court, c'est c'est dommage. C'est très très court, mais allez-y, ça vaut le coup d'œil. Et pareil, dans les notes de l'émission, il y a le lien direct. Voilà. Ensuite, eh bien, on a un nouveau phénomène qui pointe le bout de son nez. Alors, parents, attention, attention, attention. Yo-Kai Watch arrive de chez nous, enfin arrive un peu partout. C'était au Japon. Alors, Yo-Kai Watch, c'est la grande relève en fait des Pokémon. En fait, les yokai, c'est une des sortes d'esprits au Japon, et eh bien l'histoire, c'est que alors c'est un cross média, c'est un multiplateforme, enfin donc à la c'est une histoire, c'est un dessin animé, mais c'est aussi un jeu, et tout ça s'entremêle. C'est au Japon, c'est Level 5 qui fait ça en jeu vidéo. Level 5, c'est ceux qui ont fait Professeur Layton notamment. Et il y a énormément de merchandising, évidemment. Donc c'est un garçon qui voit, qui est capable de voir les yokai, donc les fantômes, les esprits dans le monde réel. Et grâce à une montre, il va pouvoir rejoindre à son équipe à la manière des Pokéballs, etc. Et livrer bataille contre certains autres qui ont le même pouvoir ou se lier d'amitié, etc. Donc, c'est le nouveau phénomène. Alors, attention, attention à vos porte-monnaies. Si vous entendez Yo-Kai Watch, commencez à vous inquiéter. Ensuite, on a une initiative de développeurs qui ont sorti un jeu qui s'appelle 404 Sight, ou 404 comme l'erreur 404. En fait, c'est un jeu assez court, c'est un runner, donc où on incarne quelqu'un qui court, pour sensibiliser le joueur à la neutralité du net. Alors, j'ai testé le jeu, il est gratuit sur Steam. J'ai testé le jeu, je l'ai pas testé longtemps parce que ça, c'est pas du tout mon truc, mon style de jeu. J'arrêtais pas de mourir c'est aussi un peu développé vite, c'est un peu dommage. Mais donc ce jeu est fait pour sensibiliser à la neutralité du net. Je n'ai pas trouvé, c'est que en anglais. Je n'ai pas trouvé de lien forcément très évident entre le gameplay et le propos. Il y a une histoire sous-jacente derrière qui il faut la comprendre, comme c'est en anglais et que tout le monde ne parle pas anglais. Mais bon, c'est une initiative, c'est une première initiative. Elle est à saluer. Je pense pas que ce soit la meilleure manière forcément de le faire. Testez, vous verrez. Apparemment, on peut finir ça en une demi-heure si on est bon. Je ne suis pas bon. Autre jeu qui aide à autre chose, Deep. Deep, c'est un jeu de réalité virtuelle qui aide à respirer pour lutter contre les crises d'anxiété. Alors en fait, Deep, c'est une sorte de plongée sous-marine. Et on a un accessoire qu'on se met autour du torse. Et donc le jeu va savoir quand vous inspirez et quand vous expirez. Et le gameplay, c'est ça. Quand vous allez inspirer, eh bien, vous allez remonter. Quand vous allez expirer, vous allez descendre. Et le but, c'est de traverser ce paysage sous-marin qui est très joli, qui est très apaisant, contrôlant votre respiration. Et alors, évidemment, c'est fait pour qu'on ralentisse sa respiration, qu'on prenne des grandes respirations et qu'on ralentisse. Mais voilà, si vous avez du mal à respirer lentement, à vous poser, etc., et que vous aimez bien les trucs de réalité virtuelle et que vous avez surtout un Oculus à la maison, essayez Deep, D-E-E-P. Si vous avez des retours, je les prendrai avec plaisir. Le racisme dans les jeux vidéo, alors le racisme entre guillemets, en fait c'est ce... je suppose que si vous n'êtes pas de couleur blanche, vous avez déjà remarqué, si vous n'êtes pas de couleur blanche et que vous aimez que le cosplayer, vous avez déjà remarqué que choisir un personnage qui n'est pas blanc, c'est pas évident, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, un personnage de jeu vidéo, il n'y en a pas beaucoup et souvent... ils sont limités à des clichés. Le black, c'est celui qui va être la brutasse, c'est lui. Voilà. Et en fait, les choses seraient en train de changer. Il y aurait moins de clichés. Donc, je suis tombé sur un article sur le site Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Et où les Africains donc montrent leur désolation, c'est pas à ce point-là, mais leur déception quant aux minorités ethniques. Enfin non, c'est même pas correct ce que je dis. Quant au non-blanc, voilà, le non-blanc dans le jeu vidéo est souvent limité à des rôles très clichés, que la tendance est en train de changer avec des vrais super-héros classe, des héros ou même des anti-héros. Et du coup, le public africain s'identifie beaucoup plus facilement aux personnages de jeux vidéo, ne serait-ce que la possibilité... Alors ça existe depuis longtemps, genre dans les MMO où on peut choisir sa couleur de peau. Mais justement, il n'y avait que dans les MMO où on pouvait incarner quelqu'un de couleur noire, je vais pas dire jaune parce que je suis daltonien et franchement, je ne sais pas ce que c'est que quelqu'un de couleur jaune. Donc voilà. Mais n'importe quelle couleur de peau, on pouvait la faire dans les éditeurs de personnages, mais ça se limitait souvent aux RPG. Donc il semblerait que les développeurs aujourd'hui soient beaucoup plus conscients de ça et ils portent un intérêt beaucoup plus important qu'auparavant et c'est très bien. La grosse affaire du moment, Steam et ses mods. Alors Steam, il y a quelques jours, donc en début de semaine, si vous écoutez ce podcast le 1er mai. Il y a quelques jours, Steam a rendu les mods. Donc les mods, c'est les modifications de jeu. C'est ces personnes qui passent un temps conséquent et parfois même un temps infini. Ça peut prendre des années à faire des sortes de petites extensions au jeu qui existe déjà. Ils modifient le jeu pour en faire quelque chose de complètement autre. Par exemple, le MOBA. Ce style de jeu en fait est venu de Warcraft 3, jeu de stratégie, et les modeurs se sont amusés à faire émerger un style de jeu à détourner le jeu pour faire émerger un autre style de jeu. Pareil pour les Tower Defense. Les Tower Defense, ben, ça vient des mods de Warcraft, etc. Et donc Steam a voulu rendre payant les mods. Alors, pas exactement, a voulu offrir la possibilité que ces mods soient payants. Et tollé de la communauté. Non, c'est pas possible, le mode, ça doit être gratuit. Bon, ok. Alors c'est vrai que la gratuité dans le monde du mode, ça fait partie des racines du monde des modeurs. Moi, par contre, je ne suis absolument pas contre le fait de rémunérer quelqu'un qui aurait passé 6 mois, 1 an, 2 ans de sa vie à développer quelque chose comme ça, pour ne serait-ce que pour récompenser le travail titanesque de cette personne. Mais la communauté l'a vu autrement et a crié au scandale. Alors, je vais pas faire le détail sur qui reçoit quoi. Il y a un pourcentage qui va au modeur, un pourcentage qui va à Valve et un pourcentage qui va à l'éditeur du jeu. Donc, ça a fait un tollé et le surlendemain, Gabe Newell, qui est la tête pensante de Valve, a fait machine arrière et a enlevé cette possibilité. Alors, déjà, il avait réagi une première fois en disant « Oui, on vous a entendu, attention, faites pas d'amalgame, on n'est pas le diable, voilà, si on voulait vraiment se faire du fric sur les mods, franchement, on se fait plus de fric autrement que sur les mods, le fric qu'on peut gagner sur les mods, ça représente un tout petit pourcentage du fric qu'on peut se faire sur autre chose, genre 1%. » Et le lendemain, voyant que la grogne ne se stoppait pas, eh bien, il a pris la décision de stopper tout, mais d'abandonner l'idée. Donc, il a fermé les vannes et a dit voilà, bon, alors le fait qu'on le fasse avec Skyrim, c'était pas forcément une bonne idée, on comprend la communauté, etc. Et donc, bon, ils ont retiré ça, ils réfléchissent pour faire un service utile. L'idée d'un pay what you want, donc payer ce que vous voulez à un modeur et aussi de la partie. Moi, c'est un système que j'aime plutôt bien. Ça existe déjà sur certains sites de mode. Si on aime bien le mode, si on le trouve chouette, si on pense que bah voilà, passer 6 mois à développer un truc de cette qualité-là, ça vaut quelque chose. Bah oui, payons-le cette dame ou ce monsieur. Donc voilà. Donc pour l'instant, machine arrière, on retourne comme avant, mais c'est toujours en réflexion. Et moi, je trouvais que c'était plutôt quelque chose de positif. Donc réfléchissez les gars de Steam pour proposer vraiment un chouette système. Et oui, moi je suis tout à fait pour. Ensuite, le mois dernier, je vous parlais de Mass Effect. Au cours de ce mois-ci, un gros dossier de fuite d'informations s'est retrouvé sur Reddit. Et on a su plein de choses sur Mass Effect 4. Donc ça fait plusieurs années, je crois, qu'on n'a aucune information sur Mass Effect 4. Et ça y est. Donc le contexte du truc, c'est, exit le colonel Shepard, etc. On va se retrouver plus loin dans l'échelle de temps. On va avoir une carte de l'espace qui va être un amas de plus de 100 systèmes solaires. Donc autant dire que ce qui avait été fait jusque là, c'est de la peau de chagrin. C'est plus de 4 fois la. Chaque système solaire va être plus de 4 fois la taille de Mass Effect 3, et donc 100 fois ça, quoi. On va avoir un équipage qui pourra être un peu autonome. On pourra les envoyer en mission quand nous on fait une mission. On pourra les envoyer en mission et vraiment chaque membre d'équipage aura son rôle. Un personnage, une histoire et un personnage, une façon de jouer, un gameplay. Bon, je dis pas moi dans les précédents Mass Effect, c'est vrai que je prenais mes coéquipiers pas en fonction de leur capacité, mais vraiment en fonction des affinités que j'avais avec et c'est tout. Là, visiblement, ça ne sera pas le cas. Apparemment, il y aura un mode horde en multijoueur, étant pas trop fan du multi. Voilà. Il va falloir établir des colonies au fur et à mesure de la progression, parce qu'on va pas avoir nos 100 galaxies à pouvoir visiter tout de suite. Donc au fur et à mesure de la progression, il va falloir établir des colonies pour pouvoir, pouvoir voyager de plus en plus loin dans cette étendue de galaxies, de 100 galaxies. Apparemment le voyage sera simplifié et le Mako, donc le Mako, j'en avais pas parlé, mais c'est ce véhicule roulant qu'on utilise lors du premier épisode, le Mako va refaire son apparition dans Mass Effect 3. Une personnalisation plus poussée, des raids, en plus des colonies, faire des avant-postes. Voilà. Et au niveau de l'histoire, eh bien, on va avoir donc des nouveaux extraterrestres. Qui s'appelle les Remnants, je crois, je sais plus, je l'ai plus sous les yeux. Les Remnants, voilà, dont la technologie oubliée détient la clé pour accéder au pouvoir dans cette région de la galaxie. Et donc, il va falloir découvrir ce que sont les Remnants. Et bien, voilà. En tout cas, ça fait furieusement envie, même si c'est pas, enfin, même si on n'a rien à voir quand on connaît la trilogie Mass Effect, ça fait quand même furieusement envie. On vous en parlait la semaine dernière. Ça y est, c'est là. Et voilà, donc, et ça fait énormément de temps que j'ai perdu. N'importe quand, dès que j'ai un moment, je sors mon téléphone et je le passe sur Hearthstone. L'interface est vraiment super bien pensée pour le smartphone. Elle est un peu moins conviviale que sur tablette et sur ordinateur, mais ça reste très efficace et c'est très agréable et faire une petite partie n'a jamais été aussi simple, aussi rapide. Merci Blizzard, merci de me faire perdre autant de temps sur les quêtes journalières, parce que j'avais pas forcément le temps de faire toutes les quêtes journalières parce qu'il fallait que je prenne mes appareils, etc. Là, voilà, une quête journalière, ça demande juste de mettre la main dans la poche. Merci. Et pour terminer, je vais rester dans Blizzard et dire que Heroes of the Storm, donc le MOBA de chez Blizzard, a une sortie prévue le 2 juin. La bêta ouverte, c'est pour ce mois-ci, c'est pour le 20 mai. Faites la bêta si vous voulez, la bêta ouverte si vous voulez, mais je sais même pas pourquoi il y a une bêta ouverte, parce que toutes les personnes qui ont voulu participer à la bêta fermée sont dessus. Mais juste par curiosité, allez-y, le 20 mai, tout le monde pourra tester. Et puis le 2 juin, le jeu sera passé en version définitive. Donc, en fait, je suis même pas sûr de voir une différence entre la bêta et la version définitive, vu que le jeu est en constante évolution, parce que des personnages sont rajoutés régulièrement, etc. Donc, il faut rééquilibrer les classes, etc. Donc, en tout cas, si vous n'avez jamais fait de MOBA, c'est un très bon jeu pour commencer. La courbe de progression est très très douce. C'est accessible, c'est pas compliqué, c'est du jeu d'équipe, mais on rentre vraiment dedans doucement. Donc, il y a franchement pas de quoi se priver. Voilà pour les news de ce mois-ci, et c'est l'heure de faire mon point sur Tipeee. Alors c'est un mois un peu spécial pour Tipeee ce mois-ci, eh bien tout simplement parce que temporairement, j'ai le montant des donations s'élève à 61$, ce qui veut dire que le palier 2 a été franchi. Alors je dis temporairement parce que il y a deux personnes qui ont fait des tips uniques. Donc je remercie encore une fois toutes ces personnes. Alors Trombo, Zelpouillou, Olivier Faquet, Guillaume, Lucien Noël, David Z, Michael Paquet, Gemini Sam et mes deux tipeurs uniques Krafton, Xunk et Choukas, merci du fond du cœur. J'ai fait une petite vidéo sur Tipeee, si vous n'avez pas pas reçu de mail, allez voir sur Tipeee, j'ai fait une petite vidéo pour remercier pour vous remercier tous très chaleureusement je vous dis ce que je vais faire de cet argent de ces 61€ que je recevrai de manière exceptionnelle. Sinon on est à 36€ je crois. Ah, voilà. Donc merci. J'ajoute aussi. Je voulais le faire aussi depuis le mois dernier. Il y a un nouveau palier de donation. En fait, si vous êtes une entreprise, une marque ou quelque chose, avec 70€, vous pouvez devenir sponsor de l'émission. C'est-à-dire que, eh bien, pour 70€, je ferai la publicité ou, enfin. Déjà en début d'émission, il y aura cette émission est proposée avec la participation de nanana. Et pendant l'émission, pendant le point sur Tipeee, eh bien, on fera la promotion du ou des sponsors. Il y a deux sponsors possibles. Donc voilà. Donc si vous êtes une marque ou quelque chose dans le genre et que vous voulez un peu de pub et que vous trouvez que on fait du boulot intéressant et voilà, eh bien 70€ c'est moins cher qu'une campagne de pub ailleurs. On passe donc au jeu du mois. Alors ce mois-ci, gros dossier également, je me suis attaqué à The Witcher, donc le The Witcher 3 sortant le 19 mai. Pour vous faire patienter jusqu'au 19 mai, si vous voulez vraiment foncer dessus tête baissée, eh bien, je vous propose de revenir sur les deux premiers épisodes. Comme ça, si vous ne les connaissez pas, eh bien, ça pourra peut-être vous donner envie de les faire, et je pense que c'est un luxe. Non, justement, je pense que ce n'est pas un luxe si on veut jouer à The Witcher 3. Donc, The Witcher 1 et 2, c'est un jeu vidéo de type action RPG développé par CD Projekt. C'est une adaptation de romans. Les romans alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais d'Andrzej Sapkowski. Donc, Sapkowski, c'est bon, je prononce bien. C'est sorti en 2007 sur PC, puis en 2008 sur PS3 et Xbox 360. The Witcher 2 Assassins of King est lui sorti en 2011 en version PC et Mac. Je vous recommande la version PC parce que la version Mac est toute buggée. Et puis sur console évidemment. Donc les événements de The Witcher prennent place après l'histoire qui est contée dans la saga de Sapkowski. Geralt de Rive, c'est un sorceleur. Un sorceleur, c'est un humain auquel on a administré une certaine dose de produits mutagènes afin d'acquérir des capacités hors normes. C'est un procédé auquel tous ne survivent pas. Les sorceleurs sont des sortes de chasseurs de monstres, fonctionnant à la prime au service de la communauté. Il n'y a plus beaucoup de sorceleurs parce que beaucoup d'entre eux, quasiment tous, ont été exterminés lors d'un pogrom. L'aventure commence quand Geralt se réveille complètement amnésique. Tiens, encore un amnésique. Mais néanmoins, le scénario écrit par CD Projekt a été approuvé par Sapkowski. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire du côté histoire. Et donc, après s'être réveillé complètement amnésique, il est amené à Kaer Morhen. Kaer Morhen, c'est une sorte d'ancienne école en ruine de sorceleurs. Une sorte de Poudlard des sorceleurs. Mais soudain, Kaer Morhen est attaqué par un groupe d'hommes très nombreux Et ils portent tous des médaillons de salamandre et s'intéressent beaucoup au laboratoire de la forteresse. Geralt va donc partir en quête de ses assaillants et par la même occasion essayer de retrouver la mémoire, et cela tout au long des deux épisodes. Alors The Witcher, c'est un jeu mature, très mature, c'est parce que c'est très complexe, c'est plus complexe que la majorité des RPG classiques. Alors déjà, il y a un background de bouquins, donc c'est déjà un univers très riche. Et alors, le sorceleur, c'est un chasseur au service de la communauté, je l'ai dit, mais il faut savoir qu'il est aussi rejeté par cette communauté parce que c'est un mutant. Et donc, beaucoup ne considèrent pas Geralt comme un être humain. Et donc, Geralt va devoir prendre à certains événements politiques, par exemple, mais il essaie de ne pas trop s'impliquer parce que c'est pas le rôle d'un sorceleur de s'impliquer dans la politique. Cependant, dans le royaume de Temeria, les xénophobies sont monnaie courante, et pas seulement envers les sorceleurs, les mutants. En toile de fond, il y a une guerre des races entre les nains, les humains, les elfes et les autres créatures, et chacun se méfie de l'autre. Alors à juste titre, on ne sait pas, faut-il être tolérant, y a-t-il un bien fondé sur cette situation, mais le fait est que personne ne peut se piffrer. Alors évidemment, il y a des gens qui vivent ensemble, il y a des parties de Temeria dans lesquelles tout le monde cohabite pacifiquement. Mais la plupart des gens ne sont pas pour la cohabitation. Et il est d'usage de voir dans les villes les quartiers pour les nains, les quartiers pour les elfes et les quartiers pour les humains. Ajoutons par-dessus ça un contexte politique très tendu. C'est un système monarchique et chaque roi de Temeria a son petit a son territoire dans ce monde de The Witcher, il ne fait pas bon être roi si on tient à garder sa tête et son cou solidement attachés ensemble. Chaque roi a ses propres idées, ses propres tolérances, et ajoutons à cela que chaque roi est épaulé par une magicienne. Les magiciennes, tout le monde sait qu'elles manigancent des trucs dans leur coin, des trucs qui ne servent que leurs propres intérêts, mais un roi ne peut se passer des pouvoirs d'une magicienne parce que en temps de tension, c'est un atout précieux. C'est comme si un pays voulait déclarer une guerre mondiale sans avoir de bombes nucléaires. Donc on ne peut pas se passer des magiciennes, mais on sait qu'elles sont elles peuvent être très néfastes. Geralt, c'est pas non plus la moitié d'un mâle. C'est aussi pour ça que je dis que c'est un jeu mature. Déjà, rien qu'à sa voix, on sait qu'il a mangé les testicules de Rambo au petit déjeuner avant de s'enfiler une dizaine de paquets de clopes.
Tête molle de m'a donné une amulette protectrice.
Fous-la en l'air! À ta place, je ne toucherai pas aux affaires de cette bite.
Le poteau magique du talisman provoque des interférences dans les projections astrales, créant une dissonance à la jonction des deux dimensions.
Quoi?
La brume va se dissiper devant nous.
T'aurais pu le dire directement, plutôt que de parler de cette merde astrale.
Mais il aime aussi boire et manger, il aime coucher avec n'importe quelle femme qui voudra bien de lui, soit par envie, soit parce qu'on leur a offert des cadeaux, soit parce qu'on leur a offert de l'or. Bref, c'est pas pour les enfants. Et pour le coup, le PEGI 18 n'est pas volé. On voit pas... concernant le sexe, on voit des seins. Voilà, c'est tout. Mais Geralt n'est pas étranger aux scènes de sexe gratuites. Il aime la bonne chair. Si jamais vous voulez... si jamais un jeune veut jouer à The Witcher... Bon, moi je dis qu'on pourra prouver qu'un jeune de 16 ans puisse y jouer si celui-ci sait apprécier Game of Thrones pour autre chose que le sexe ou la violence, parce que The Witcher, ça ne se limite pas au sexe et à la violence. Il y a ce même degré de complexité, de tension politique, etc. Donc vraiment, faut s'accrocher. Côté gameplay, j'aime beaucoup, ça change, c'est pas quelque chose de très classique. Il n'y a pas une seule façon de jouer à The Witcher, même si le gameplay du premier est beaucoup plus exigeant que celui du deuxième, parce que le gameplay du premier nécessite d'avoir un bon timing de clic pour pouvoir enchaîner les coups. On s'y fait très très rapidement, hein. J'ai été très décontenancé au départ du premier épisode parce que je donnais un coup et après ça foirait et puis voilà. Mais on a des petits indices visuels qui nous disent quand appuyer, quand enchaîner les coups, et on s'y fait très 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 rapidement. Et le 2 est quand même plus permissif. Mais cependant, jouer comme babouliné, ça va pas permettre de sortir vivant des affrontements. Pour peu qu'il soit plus de un adversaire. Donc il faut la jouer fine, trouver l'ouverture, engager la bataille. Et on va pouvoir se la jouer soit épéiste, soit mêler un peu de magie à ça, ou alors mêler en plus de la potion, se gaver de potion, pour être bien préparé au combat. Parce que oui, Geralt est aussi alchimiste. Comme tout sorceleur qui se respecte, les sorceleurs sont des alchimistes hors pair. Et donc il va falloir tout au long de votre aventure ramasser des plantes qui jonchent les chemins que vous allez arpenter pour les mélanger et en faire des mixtures qui vont vous rendre encore plus puissant, qui vont vous donner des bonus d'attaque, qui vont vous immuniser contre du poison, qui vont vous permettre de voir dans le noir, tout ce genre de joyeuseté. Mais attention, si vous en abusez, vous allez vous intoxiquer. Et trop vous intoxiquer peut avoir des effets indésirables, pouvant aller jusqu'à la mort, ce qui est plutôt fâcheux, disons-le. Alors, lorsque vous tuez une grosse bête, vous pouvez aussi ramasser en trophée une partie, un bout de son corps et le mettre sur un petit crochet que vous avez à la ceinture et pour faire augmenter vos caractéristiques. Alors ce sont pas les seuls loots qu'on va trouver dans le jeu, évidemment il y a les loots d'armes et d'armures, et en parlant d'armes, elles sont au nombre de deux. Vous avez deux épées dans le dos, une épée en acier pour tout ce qui n'est pas monstre, et une épée en argent pour tout ce qui est les monstres baveux, puants et poilus. Et le reste des loots, ça sera pour vos quêtes et vos potions. Concernant The Witcher 2, l'histoire prend place quelques temps après les événements du premier. Alors je vais pas spoiler du tout le premier, même si ça pourrait expliquer certaines choses de Witcher 2. Mais Geralt a décidé de s'impliquer un peu en politique, puisqu'il se met au service d'un roi pour assurer sa protection. Alors, bon, je vais spoiler la première demi-heure de Witcher 2, je suis désolé, mais il va lamentablement échouer. Et donc, les éléments de l'enquête du meurtre vont accuser Geralt de manière évidente de ce crime. Or, Geralt n'a rien fait. Il a juste essayé de le protéger. Et il va partir en quête du coupable pour prouver son innocence. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, il va toujours essayer de recouvrer toute sa mémoire. Il a recouvré une partie de sa mémoire dans le premier, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre qu'il va devoir éclaircir lors de ce deuxième épisode. Techniquement, il est beaucoup plus abouti, il est plus souple, comme je l'ai dit. Et il permet de s'approprier beaucoup plus le gameplay pour vraiment coller à son style de jeu. Si on est que épéiste, on va pouvoir y aller joyeusement à l'épée, ou on va pouvoir enchaîner épée, sort, ou on va pouvoir être gavé de potions magiques et donner 3 coups d'épée et embrocher les ennemis en rigolant. Le combat à plusieurs ennemis est fluide, c'est pas aussi fluide qu'un Batman, c'est pas aussi fluide qu'un Assassin's Creed. Il faut quand même un peu de technique, il faut savoir enchaîner les coups. Quand enchaîner, on apprend très vite à savoir quand on peut placer un pouvoir au milieu d'un enchaînement. On peut pas le placer n'importe quand. Il faut que ça s'enchaîne bien avec les gestes qu'on fait. Mais au bout d'un moment, on apprend assez vite et quand on a vraiment bien compris le truc, on se sent puissant, et quand on vient à bout de 3 ennemis sans perdre un gramme de vie, vraiment c'est la classe, on est vraiment content. En plus, ce que j'ai pas dit aussi dans le déroulement de l'histoire, c'est que il faut faire des choix. Et dans le 2, il y a vraiment, enfin, cette notion, je trouve, est vraiment bien travaillée. Il va falloir faire des choix cruciaux pour l'histoire, pour le déroulement des quêtes. Donc, par exemple, j'étais en train de parler à une magicienne, je lui ai répondu quelque chose, et du coup, la quête qu'on m'avait donnée avant, eh bien, j'ai choisi de faire une action qui me condamnait à ne pas pouvoir faire la quête avant parce que je trouvais que ça profitait plus à l'histoire et que, voilà, du coup, la quête se fermait à moi. On a aussi des pouvoirs de vie et de mort sur des personnages, etc. Enfin, il n'y a pas que des petites décisions. Pour ce qui est du temps de jeu, j'ai mis 14 heures pour finir le premier. J'ai pas fait toutes les quêtes annexes. Il y en a pas foison. Il y en a, il y a de quoi faire largement. Il y en a pas foison. Tandis que pour le deuxième épisode, j'ai mis 31 heures où là, il y a vraiment pas mal de quêtes annexes à faire. En parlant de quêtes annexes, il y a aussi les jeux de poker dés. On joue au poker avec des dés, on essaie de faire des brelans, des paires, des suites, etc. Pour se faire un peu de sous. Et dans le 2, il y a en plus un. Dans le 1, il y a en plus du combat à main nue. Et dans le 2, il y a du combat de bras de fer. Donc pareil, ça fait partie des quêtes annexes. Donc je disais. Oui, et donc 31 heures pour finir le deuxième. Mais là, si vous voulez vraiment faire toutes les quêtes secondaires, ça va vous prendre beaucoup plus que 31 heures. Les points noirs des jeux, qui sont vraiment touffus. c'est pas vraiment un point noir, mais voilà, on hérite du background des livres. Il y a plein de noms, il faut s'accrocher pour les retenir, pour savoir qui est qui et comment on fait quoi. Donc si on se fait déjà les deux jeux. Avec pas mal de temps de pause entre deux, on va avoir un peu de mal à raccrocher. Mais les personnages principaux restent, les doubleurs sont quasiment les mêmes d'un épisode à l'autre. Ça c'est plutôt chouette. Une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a compris qui était quoi et où se passait quoi, ça va. Mais vraiment, il faut rentrer dedans. Pour les prix, The Witcher c'est dispo sur Steam à 7,99€, hors promo, et The Witcher 2 est disponible à 19,99€. Je vous conseille d'attendre une promo, il est sorti en 2011, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Il y a un pack, je crois que j'ai vu traîner un pack The Witcher 1, 2 et 3 sur Steam, qui est à 69€, à voir si ça vaut le coup, il va peut-être baisser, je sais pas. Donc The Witcher 3 va sortir donc le 19 mai, il est dispo en précommande, donc si vous voulez, en précommande il y a une baisse de prix, il sera à 59,99€ lors de sa sortie, mais en précommande il est à 43,99€, du moins en ce moment. Mais je reviendrai sur cet épisode lors du podcast, d'un des podcasts de l'été, parce que apparemment il est assez massif, donc le temps que je puisse m'en faire une idée et peut-être le finir. Alors sinon, j'ai d'autres jeux à vous proposer, mais cette fois-ci pour les enfants. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de m'attaquer à ma fille vient d'avoir ses 2 ans. Elle les a le jour où j'enregistre. Donc j'ai décidé de m'attaquer aux apps iPad, enfin du moins tablette, j'ai un iPad, donc voilà, pour les enfants, et parce que c'est une excellente entrée en matière de jeu. Et donc depuis qu'elle a 1 an, elle utilise une série d'apps qui sont éditées par la société Wonderkind. Alors déjà, je tiens à remercier ces messieurs qui m'ont répondu favorablement. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer leur collection complète, parce que j'ai quelques applications, et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer leur collection complète. Ils m'ont répondu oui, très gentiment, et donc je les en remercie. Et donc c'est une série de plusieurs applications, donc qui vont parler d'animaux, de cirques, de villes, d'aéroports, de pompiers, de fermes, qui vont vous permettre de faire de la musique et même d'apprendre l'anglais. Alors, c'est à partir de 2 ans. Donc, à partir de 2 ans, je vous dis, moi, ma fille, elle a commencé à un an. Alors, elle a commencé à, du coup, à manipuler la tablette avec ses applications. Alors, la musique que vous entendez là, en arrière-plan, donc c'est la musique qui fait la signature des apps Wonderkind, enfin du moins celle pour les tout petits. Alors les apps Wonderkind, en fait c'est trois décors sur lesquels on va pouvoir appuyer sur tout ce qu'il y a, enfin presque tout ce qu'il y a, et à chaque fois qu'on va taper sur quelque chose, eh bien il va se produire un truc. Donc là par exemple l'application que j'ai ouverte c'est la ferme, donc là je vois une poule, donc j'appuie dessus, voilà, elle a pondu un œuf et l'œuf est tombé dans le panier. Alors c'est très coloré, c'est bon enfant, c'est vraiment, j'ai à part la musique qui est un peu entêtante, je n'ai aucun reproche à faire à ces applications. On les prend, on les utilise 5 minutes, 10 minutes, et eh bien c'est comme si notre enfant regardait un livre, sauf qu'il s'amuse à faire bouger les images du livre, et c'est vraiment magique. Donc ça c'est les applications c'est marqué les 2+, donc pour les 2+. Après, il y a les applications pour les 3+, qui sont l'aéroport et les pompiers, où là, c'est le même principe. C'est le même principe, sauf que il y a une narration, une toute petite narration, notamment sur celui de l'aéroport. Mais on va pouvoir... certaines actions peuvent s'enchaîner et... Donc avoir une certaine cohérence entre elles. Au niveau des pompiers, donc il y a les pompiers et la police, et au niveau de l'aéroport, il y a trois tableaux, l'accueil, l'embarquement et l'intérieur de l'avion. Donc voilà, ça c'est l'aéroport. Donc voilà. Après, il y a les applications qui sont pour les enfants un petit peu plus grands. À savoir, il y a deux applications de musique et une application pour apprendre à lire ou les mots. Alors, les applications de musique, il y a Jungle Jam. Donc, Jungle Jam, c'est on va apprendre à identifier des bases musicales. Donc, on a un rythme de départ. Qui est assez entêtant. Alors, ça va vous rester dans la tête. Hein. Si vous faites ça, ça va vous rester dans la tête. Donc, on a un rythme de départ qui est celui-là. Voilà. Et donc, on a plusieurs animaux sur l'image. Et en tapant sur un animal... Eh bien, on va provoquer, par exemple, une ligne mélodique. Donc là, j'ai rajouté une flûte. Donc voilà. Ensuite, je vais appuyer sur le rhinocéros pour ajouter une ligne rythmique. Et au fur et à mesure que je fais ça, il y a des petites lumières sur le côté qui s'allument pour dire à quel degré j'ai complété ma musique pour qu'elle soit complète. Je vais rajouter une voix. Voilà. Et un peu de cymbales avec le serpent. Mmh. Donc voilà, et en fait, au fur et à mesure, une fois qu'on a complété les différentes lignes musicales, eh bien, on gagne des animaux supplémentaires qui vont être des instruments supplémentaires et permettre de faire des nouvelles mélodies, etc. Enfin, c'est vraiment un truc très très chouette. Mais par contre, ça reste dans la tête. Donc voilà. Et donc il y a une autre application de musique qui s'appelle Liliband qui elle est faite pour jouer de la musique. Alors jouer du clavier, du piano et même apprendre à jouer du piano parce que les touches s'illuminent au moment des mélodies. Il y a une quinzaine de mélodies et vingtaine de mélodies et au fur et à mesure on peut appuyer sur les touches du piano pour jouer la mélodie quand elle arrive et il y a même les notes qui se mettent sur les partitions au fur et à mesure qui défilent. Donc c'est assez éducatif. Le but c'est pas de faire de votre enfant un pianiste aguerri, hein, mais c'est rigolo, ça peut même être une première approche aux jeux musicaux, genre rock band, guitar hero, etc. Donc c'est chouette. Le dernier, je regrette qu'il ne soit pas en français. Ça s'appelle Monster ABC. Donc là c'est pour les 5 ans et plus. Et dans Monster ABC, il va falloir apprendre à lire les lettres. Donc, hop, là je lance le jeu. Et j'ai une roue avec 4 lettres. Donc voilà, j'ai...
Sounds like P.
Alors, le son n'est pas très bon.
P. Sounds like P.
Voilà. Donc, et sur l'autre roue, j'ai 4 images qui vont devoir être associées à la lettre, enfin aux 4 lettres. Donc là, j'ai appuyé sur le P.
As in pumpkin.
Et voilà, je l'ai associé à la citrouille qui se dit pumpkin en anglais. Et bien voilà. Donc ça peut être une bonne façon d'initier son enfant à l'anglais. Mais avant, il faut quand même avoir des notions de de français pour lire l'alphabet tout court. Donc voilà. Donc ce sont les applis, les apps Wonderkind. Elles coûtent de mémoire, elles coûtent 2,99. J'espère que je me trompe pas, parce que quand on les a achetées sur l'App Store, eh ben, le prix n'y est plus. Elles coûtent à peu près ce prix-là. Ils font des packs pour faire un peu d'économie, donc vous pouvez acheter 3 apps pour 7 euros, je crois. Mais c'est vraiment des apps très très chouettes. Alors elles ne sont que sur iPad, que sur iOS. Elles sont aussi donc sur iPhone, mais je déconseille fortement l'iPhone. C'est trop petit pour des enfants comme ça qui commencent à apprendre à taper sur un écran de tablette. Non, non, c'est pas possible. Donc sur iPad, les apps Wonderkind, ça s'écrit Wonderkind. Ce sont des Allemands qui font ça et c'est vraiment chaudement, chaudement recommandé. Donc récapitulons, eh bien en attendant The Witcher 3, je vous ai proposé The Witcher 1 et The Witcher 2 et les apps Wonderkind sur iPad. Maintenant, passons à Parole de Gamer. Alors, ce mois-ci, dans Parole de Gamer, nous allons plonger dans un univers que beaucoup d'entre nous avons peut-être oublié. Un univers qui peut peut-être faire peur, un univers qui peut paraître incompréhensible, parfois même empli de bêtises ou encore totalement insipide, ou alors ce n'est qu'un amas de préjugés. Eh ben, on va voir ça aujourd'hui grâce à mon invité du mois, qui va nous plonger dans l'univers terrifiant du jeune. Bonjour Mathis.
Salut Jean.
Comment ça va?
Bah ça va bien. Il y a du soleil, etc. Ah. Donc c'est parfait.
Oui, les vacances se terminent aussi.
Oui, c'est le problème.
Donc, Mathis est un de mes anciens élèves. Donc, je l'avais en cours l'an dernier et donc je l'ai invité ce mois-ci pour, eh bien, nous parler de la pratique de tes collègues, de tes contemporains, c'est-à-dire le jeune en général. Est-ce que ça te va comme programme ?
Oui, c'est parfait.
Alors, on va commencer tout de suite. Dis-nous un peu quel âge tu as.
Je viens de prendre 16 ans. Je suis en seconde générale pour les précisions et puis c'est à peu près tout.
Alors, 16 ans, ça veut dire que tu es né en 1989.
Mais je suis en 2019.
1999. D'accord, l'année où j'ai eu mon bac. Donc en 1999, les consoles présentes, c'était eh bien la PlayStation régnait en maître. Donc évidemment, je suppose que tu n'as pas joué à la PlayStation à 5-6 mois. C'était quoi ta première console du coup ?
En fait, mon frère aimait beaucoup la PlayStation. Il a eu la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PSP, etc. Enfin, tout, un peu tout ce que PlayStation sortait. Et moi, j'étais le frère qui récupérait... les anciennes, donc j'ai beaucoup joué à la PlayStation 1, ensuite je me suis acheté ma vraie console à moi, c'est la PlayStation 2 Slim, pour être tâté.
D'accord, et donc t'as commencé à quel âge à peu près ?
On va dire que j'ai commencé en regardant mon frère et mon père.
Ouais, mais la pratique.
La pratique vraiment, je dirais 8-10 ans, ouais, dans ces eaux-là.
D'accord, et ton premier jeu alors, c'était quoi ?
Mon premier vrai jeu, c'était, je dirais, Jack and Dexter. Je crois que c'est Jack and Dexter.
D'accord. Un bon souvenir ou plutôt moyen ?
Ah non, très très bon. Enfin, Jack and Dexter, c'est un peu versé en enfance parce que bah, je les ai presque tous finis et puis j'adorais ça. Enfin...
Et tu continues à jouer à Jack and Dexter aujourd'hui, enfin les récents ?
Non, parce que Jack and Dexter de 1, c'est beaucoup moins présent qu'avant. Et puis, personnellement, il y a que le 1 que j'ai vraiment apprécié beaucoup, quoi.
D'accord, ok. Est-ce que tu as un parcours PlayStation ? Est-ce que tu as fait des infidélités à Sony ou tu es resté chez Sony jusque-là ?
Je suis un peu passé partout, à part le Microsoft. Donc maintenant, d'accord, j'ai la PlayStation 3, j'ai fait un peu de PC, comme tous les collégiens qui ont joué à Minecraft. Et j'ai fait de la DS aussi.
D'accord. Et donc, sur ce parcours de jeux vidéo donc qui commence pour toi, est-ce que tes parents ont joué un rôle là-dedans ?
Oui. C'était assez dur de pouvoir toucher une console avec mes parents. Heureusement, mon père a joué à Lara Croft pendant que j'étais en train de naître. Enfin, j'étais en train de naître. Pendant que.
Oui, c'était la période. C'était la période de Lara Croft, ouais.
Ouais, c'était la période et mon père avait beaucoup aimé. Du coup, il a un petit peu plus ouvert au niveau de jeux vidéo plutôt que ma mère, mais n'empêche que c'était quand même des gentils parents qui me laissaient jouer même quand j'étais assez jeune.
D'accord. Et est-ce qu'il. Est-ce qu'ils allaient jusqu'à te conseiller des jeux, t'interdire des jeux ?
Oui, parce que, petite anecdote, quand j'étais en cinquième, je crois, je m'étais acheté un jeu de zombies, précisément Dead Rising, et quand mon père avait vu, d'accord, il n'a pas du tout aimé, donc il m'a confisqué, etc. etc.
D'accord.
Et moi, j'étais très déçu parce que j'ai à peine pu y jouer une heure.
Oui, mais tu y as rejoué par la suite après ?
Non, j'ai dû le revendre.
Ah bah tant pis.
Et au final j'ai eu Avatar. Beaucoup moins.
Oui, c'était pas une réussite.
Oui, enfin c'est les choix de mon père quoi.
C'est pas bien. Justement, tu parles de ton père. Alors parlons un peu des vieux. Je me mets dedans. Hein.
D'accord.
Quel regard les jeunes en général, donc vous, quel regard vous avez sur les adultes qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui ? Mais alors, je te parle pas de des Candy Crush et tout ça. Hein. Je te parle des vrais. Hein.
C'est, ouais, les vrais gamers. Quoi.
Voilà.
étonnant, mais je pense que la plupart, enfin, dans ceux que je connais, sont du respect vraiment. Pas parce qu'ils jouent, mais parce que ils ont vraiment un point de vue et puis un. Parce que, en fait, une majorité des gens trouvent que les jeux vidéo rendent violents, etc. Et ceux, justement, qui jouent encore, c'est pas spécialement ça leur point de vue. Enfin, ils peuvent voir le
ouais.
fait que tout le monde ouvert qui est présent dans le jeu vidéo, quoi.
Ah! On est un peu comme des sages, en fait.
Comme des?
Des sages. Des érudits du jeu
ouais,
vidéo.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça dépend des personnes, mais souvent, je pense que c'est un peu ça, ouais. C'est les vétérans du jeu vidéo parce qu'ils ont un peu connu le passage à la 3D.
Ah, c'est flatteur. C'est flatteur, merci.
Après, peut-être que tout le monde n'a pas le même point de vue que nous, notre petit groupe.
Oui, oui, oui.
Voilà.
D'accord. Alors, après m'être passé de la pommade, est-ce que tu as été initié ou est-ce que tu pratiques aussi le rétro gaming?
Oui, le rétro gaming, c'est-à-dire ressortir les vieux jeux, etc.
Alors oui, alors moi, ce que j'appelle rétro gaming, ça va être pour les consoles que qui ont existé avant ta naissance.
Oui, parce que figure-toi qu'il y a un mois, j'ai ressorti ma Game Boy Color. Quoi.
D'accord.
C'est assez amusant parce que avec la petite molette pour régler le contraste sur le côté, etc.
Oui.
C'est sympa.
D'accord. Et donc, est-ce que, enfin, par rapport à ça, donc toi, tu l'as fait à l'envers. Hein. T'as connu d'abord les jeux modernes et ensuite t'es passé par le rétro gaming.
Ouais.
Pareil, quel regard tu as sur le rétro gaming? Est-ce que tu trouves des choses que tu trouves dommage qu'il n'y ait plus dans les jeux d'aujourd'hui?
Je sais pas comment. Déjà, il y a beaucoup moins de jeux de plateforme, alors que je trouvais ça très sympa.
Ouais.
Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a pas? Le fait qu'on ait trop de choix maintenant et qu'on. Que tout le monde ait la vision vraiment graphisme et plus gameplay. Fin... Maintenant, on dit, oh,
oui.
Ce jeu, il est mal fait, etc. C'est, il est naze, alors qu'il y a des jeux mal faits qui. Ont des super potentiels, quoi.
D'accord, oui, ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, bon point de vue. Si je te dis, que j'ai inventé un jeu qui sort demain, et ce jeu, on peut y jouer à 4 sur le même écran, c'est donc sur la télé. C'est fun tout de suite, et le but, c'est de te faire exploser les autres à l'aide de bombes, et les coups de traître sont très conseillés sur des matchs de moins de 5 minutes. Qu'est-ce que tu me dis?
Ça peut être très sympa pour une après-midi entre potes, ou je sais pas, un jour il se met à pleuvoir, ou en fin de soirée,
ouais.
Ça peut être très amusant, ouais, au contraire.
Est-ce que tu arrives à trouver ça sur les jeux d'aujourd'hui?
Bah, il y a toujours les Smash Bros, etc., mais sinon, non.
Ah, c'est vrai.
Mais sinon, non, pas
c'est vrai. J'avais pas pensé aux Smash Bros. Parce que, en fait, ce jeu-là, en fait, il existe, hein. Ça s'appelle Super Bomberman, c'était sur Super NES. Et voilà, je te le conseille. Un petit conseil en passant.
D'accord.
T'installes ça sur ton PC avec un
non,
émulateur.
Non,
on a
une NES. Enfin, j'ai pas une NES personnellement, mais j'ai un peu quand même une. Donc...
Une Super NES.
Ouais.
D'accord. Bah, une Super NES 4 manettes et Super Bomberman, et tu vas voir, c'est l'éclate.
Ah, on n'a que 2 manettes, par contre.
Ah. Oh, dans les brocantes, ça se trouve.
Ouais, ouais, ça va se trouver.
Donc tout à l'heure je t'ai demandé comment tu voyais un peu les vieux. Maintenant, quel regard est-ce que vous avez sur vos congénères? Est-ce que vous catégorisez genre ceux-là c'est ceux qui jouent au foot,
ouais.
Comment est-ce que ça s'organise tout ça dans votre société de jeunesse?
Bah, c'est vrai que c'est très partagé parce que il y a tout type de gamers, il y a vraiment les petits qui, enfin, je vais les appeler les petits, même si c'est vexant pour eux, mais ceux qui sont tout le temps sur Call of Duty ou FIFA, enfin, toujours en ligne, ils font que ça de leur journée, ils essaient pas de découvrir
ouais.
les autres, ils achètent le nouveau chaque année, et puis voilà.
Ouais.
Il y a vraiment les hardcore, enfin, il y en a pas mal, quand je suis arrivé au lycée, je me suis rendu compte qu'il y en a de plus en plus. Ceux qui jouent à LOL, ceux qui jouent à World of Warcraft, etc. Enfin, je les critique pas, au contraire, parce que c'est des super jeux, mais ils sont H24 dessus, quoi.
D'accord.
Et après, je veux dire qu'il y a la classe moyenne où je me mettrais dedans personnellement, c'est ceux qui, je sais pas, qui essaye vraiment un peu tout type de jeu, quoi, parce que quand je joue mon armoire, je fais trop des FPS, même des RPG, etc. Et... enfin, c'est vraiment le solo, enfin, surtout moi, avec ma connexion, le solo avant tout, quoi. Enfin...
Donc, ouais.
Je vois un peu ça comme ça. Après, il y en a toujours plein d'autres types, mais je les classerai en trois catégories comme ça, moi.
D'accord. Ok. Et donc, tu me parlais des jeux sur PC. C'est vrai que moi au collège, de ce que j'entends les élèves parler, il y en a pas beaucoup, je trouve, qui jouent sur PC. Est-ce que alors je te dis, moi je suis de l'autre côté du bureau, hein, dans la salle de classe, mais ouais. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent sur PC, ou à partir de quel âge on joue sur PC?
Je dirais que c'est à partir de 3e, voire passage au lycée, voire plus tard, parce que tout simplement ça coûte cher de 1.
Ouais. Alors, et pour les gens, 3e, ça va être 14-15 ans.
Ouais, voilà. Ils peuvent commencer à faire des petits travaux chez leurs parents, par exemple, pour gagner un peu d'argent, etc. Ouais. Et puis aussi parce qu'il faut quand même des connaissances en informatique que tout le monde n'a pas, quoi. Enfin, la plupart des jeunes de maintenant savent utiliser Google, tout ça, super facilement, mais après, ils ne savent peut-être pas utiliser un PC comme on utiliserait un PC normalement, quoi.
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, Mathis.
D'accord. Mais par contre, faut pas croire, mais il y en a de plus en plus, parce que au collège, il n'y en a pas beaucoup, et puis ceux qui parlent de jeux vidéo, c'est surtout justement ceux qui jouent à FIFA et Call of Duty. Ouais. Après, la plupart commencent en jouant à des petits jeux comme Minecraft. Enfin, je ressens ça parce que c'est un peu un basique.
Si, c'est vrai, moi c'est Minecraft aussi qui me revient pas mal aux oreilles, mais de plus en plus League of Legends.
Ouais, bah ça commence à beaucoup se faire connaître. Et non, mais après il y en a pas mal qui se remettent au PC justement, bah, pour League of Legends, pour Hearthstone, ouais. Pour un peu tous les jeux bizarres, quoi.
Ah, bizarre. Ok. Et est-ce que tu te vois est-ce que tu fais bien la différence entre la pratique du jeu sur console, la pratique du jeu sur PC, ou est-ce que pour toi c'est du pareil au même, c'est juste les jeux qui changent?
Non, il y a une grosse différence quand même. Rien que j'avais critiqué les graphiques tout à l'heure du fait qu'on regarde que ça maintenant, mais déjà les graphismes sont deux fois plus performant sur PC, voire plus. Et je pense qu'il y a aussi, pour ceux qui jouent en ligne, évidemment, il y a aussi le fait qu'il y a une meilleure ambiance, une meilleure entente sur des joueurs PC par rapport aux joueurs console.
Ouais.
Parce que...
Oui, tu peux communiquer plus facilement avec un PC plutôt qu'avec une console, ouais.
Oui, et puis c'est surtout le fait que la console, c'est un peu les débuts où justement il y a le plus d'amateurs, on va dire, et les PC, c'est un peu plus ceux qui s'y connaissent mieux en jeu vidéo.
Ah oui, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok.
Je pense que c'est oui, et qui ont une meilleure vision du jeu qui sont sur PC, quoi.
D'accord, ouais. Ok, bah très bien. Autre question que je me posais, alors là, beaucoup plus générale. Alors, de mon temps, hein, quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, nous, on s'informait avec des magazines de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi votre source d'information principale sur les jeux vidéo? Est-ce que ça reste du magazine, ou il n'y a que de l'internet, ou il y a de la télé, il y a un peu des tout ça?
Alors, maintenant, c'est le magazine, mais numérique, quoi. Enfin, c'est pas mal, jeuxvideo.com, etc., tout ce qui est forum, etc. Enfin, personnellement, c'est là-dessus que je vais, la plupart de mes amis vont là-dessus aussi. Après, ouais. Il y avait des magazines au tout début, je me rappelle quand j'étais sur PlayStation 2, j'achetais beaucoup de magazines, j'en ai encore dans mon armoire.
Ah oui, à l'époque, Internet était pas encore...
ouais, voilà, et puis j'avais pas de PC, tout simplement. Et ouais. Sinon, il y a la télé, il me semble aussi, mais il faut avoir quand même pas mal de chaînes à disposition pour avoir des chaînes qui sont vraiment basées là-dessus, quoi.
Ouais. D'accord, donc ça reste jeuxvideo.com... Avec ouais, le forum, c'est comment ce forum? C'est 15-25 ans, c'est ça?
Il y a 15-18, 18-25, il me semble.
Ouais.
maintenant, ils sont plus trop basés sur les jeux vidéo parce que j'ai des fois vu des forums assez spéciaux.
En fait, ils ont déménagé, ils ont été rachetés il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ils sont sur Paris et il y a quelques petites critiques qui émanent de jeuxvideo.com depuis qu'ils ont été rachetés. Je ne sais pas si ça s'est vu de votre côté, vous. Vous avez vu un gros changement du côté de ce site-là ou pas ?
Oui, parce que au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était vraiment basé que là-dessus, sur l'actu du jeu vidéo. Et maintenant, c'est un peu un Doctissimo mélangé avec un jeuxvideo.com, mélangé avec. Il y a vraiment de tout, j'ai l'impression maintenant. Pas sur ce qu'ils publient. Ce qu'ils publient, c'est toujours du bon travail, de bonnes informations, mais sur les forums surtout.
D'accord, donc c'est les utilisateurs que ça devient du grand n'importe quoi en fait.
Oui et non, parce qu'il y a toujours les vétérans, je vais les appeler comme ça, parce que
oui.
Des bons forums où c'est des questions qui sont utiles, mais il y a aussi des choses assez bizarres quoi.
D'accord, donc si je comprends bien, vous participez quand même activement à ces forums.
Il y a une grosse partie de nous qui participe.
D'accord. Donc vous faites pas que lire, vous prenez part vraiment aussi au truc.
Vous prenez pas aussi vraiment.
Vous prenez part vraiment à la vie du forum. Vous êtes pas là et juste pour lire ce qui se passe sur les forums. Vous alimentez aussi le truc.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est des fois on a une question à se poser, on marche sur internet comme tout jeune de maintenant.
D'accord. Ouais.
Et des fois, on tombe la plupart du temps sur un forum 15-18, etc.
D'accord. Une toute dernière question. Donc, tu ne te vois pas lâcher la console pour l'instant. Qu'est-ce que, avec le regard que tu peux en avoir, qu'est-ce qui te plairait pour l'avenir du jeu vidéo, genre quand t'auras mon âge, quand t'auras un peu plus de 30 ans, tu te vois comment jouer aux jeux vidéo ? Si tu te vois toujours jouer aux jeux vidéo.
Oui, je pense que je continuerai, même si je joue beaucoup moins qu'avant, parce que. Mais je pense que je continuerai.
Ça s'empire avec le temps, t'inquiète pas.
Ah ouais. Bon, on verra bien. Donc ouais, mais non, je pense que je continuerai à toucher quand même à jouer encore, mais voir. Enfin, c'est assez dur comme question quand même.
J'ai pas dit que c'était facile.
je pense mais que ce sera très basé en ligne, etc. Que du en ligne. Quoi que, même les jeux solo, ce sera. Faudra être connecté. Faudra qu'il y ait un lien avec des amis, etc. Après ça, faudra régler les problèmes de connexion de chacun. Mais...
D'accord.
Mais ce que j'aimerais bien vraiment, ce serait. Bon, c'est un peu trop futuriste peut-être, mais qu'on puisse être.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Un peu plus immergé dans le jeu vidéo, je sais pas, peut-être une vision 3D ou le fait que quand on fasse des mouvements, un peu comme la Kinect, etc., ça fait un petit medley de tout et qu'on voit un peu comme dans les films quand on apparaît vraiment dans le jeu vidéo, je sais pas.
Un petit aspect de non, mais je. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vais te conseiller un petit film qui s'appelle Existence.
D'accord.
Et alors c'est pas un film très joyeux, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Hein. Mais moi c'est ma référence en termes d'immersion dans des mondes virtuels. Donc tu me diras ce que tu en penses. Donc Existence. Ouais, tu verras, ça pose pas mal de questions. Sur justement l'immersion et tout ça. Ok, mais écoute, je vois qu'on a à peu près la même vision en fait du futur du jeu vidéo. Donc ça va, j'ai pas l'impression d'être trop déconnecté par rapport à la jeune génération. Je sais pas, est-ce que t'avais un truc à ajouter ? Est-ce que tu voudrais dire un truc sur le jeu vidéo, passer un message qui t'énerve, par rapport à un truc qui t'énerve et que les gens comprennent bien une fois pour toutes quelque chose ? Enfin, je sais pas, t'as une revendication, je sais pas. Vas-y.
Je vois. Faut arrêter de dire. Déjà, une grande partie arrête de traiter ceux qui jouent pour des sous-merdes un peu. Il y a pas mal de jeunes qui n'aiment pas ceux qui aiment jouer parce qu'ils s'échappent là-dedans ou des choses comme ça. Et Enfin, je sais pas. J'ai pas vraiment grand chose à dire. À part... Après, si, tout ce que j'ai dit dans ma petite interview, c'est vraiment le point de vue, enfin, mon point de vue. Il y a plein de points de vue chez les jeunes. Il y en a qui diront que la base des jeux vidéo, c'est vraiment que les en ligne maintenant, que les jeux solo, ils sont vraiment nazes maintenant, alors qu'il y en a encore des bons.
Oui. Donc, mais alors, si je comprends bien, là, d'après ce que tu viens de dire, il y a donc une certaine catégorie donc de jeunes qui, entre guillemets, trouvent que c'est pour les bébés.
Ça dépend des jeux vidéo, mais oui. Je pense que la plupart diront pas ça de FIFA, parce que c'est un peu la base de, quand on est entre amis, faire un FIFA, voilà.
Ouais.
Mais tous ceux qui jouent à des jeux un peu plus... et qui prennent plus de temps, on va dire, comme LOL, etc., bah, là, ils les verront un peu comme des losers. Ouais.
D'accord, ouais. Ah. Juste petite précision, est-ce que sur ces gens-là, est-ce que c'est indifférent du sexe, ou est-ce que c'est plus des mecs ou des filles qui vont dire ce genre de choses?
Déjà, on va dire que dans l'ensemble, les filles n'aiment pas trop les gens qui jouent aux jeux vidéo, parce que il y en a beaucoup, enfin il y en a de plus en plus, mais il y en a une grande majorité qui n'y joue pas et qui voit ça un peu comme quelque chose qui sert à rien, quoi. Et sinon, il y a toujours les moqueurs, on va dire ça comme ça, qui aiment bien charrier ceux qui s'échappent dans les jeux vidéo, on va dire ça comme ça.
D'accord, ouais. Alors, là, ce qu'on dit, ça me révoque un truc dont on a déjà parlé. Est-ce que tu trouves que ce serait pas mal d'avoir quelque part dans l'école, alors je dis pas que ça doit être un cours, hein, ça peut être un atelier, ça peut être je sais pas quoi, mais genre un atelier d'études de jeux vidéo, tu sais, comme on fait des clubs cinéma ou des trucs comme ça, et donc un enseignement à la critique et à la pratique du jeu vidéo, est-ce que ça te semble pertinent, toi, aujourd'hui?
Ça pourrait être génial, parce que la plupart diraient « Ah ouais, trop bien, on va en jeu vidéo, on va jouer ensemble, on va s'amuser », et ils verront vraiment la diversité des jeux vidéo, et je pense que ça pourrait être très bien pour eux comme pour tout le monde.
D'accord, bon. Eh bien, merci Mathis. merci. Donc c'est sur cette note positive qu'on va s'arrêter quand même. Je te remercie beaucoup. Ça nous a éclairé sur un pan des joueurs qu'on ne connaît peut-être pas assez, mais qu'on va être amené à connaître parce que tous les gens qui nous écoutent sont pratiquement tous parents. Donc merci de nous avoir apporté ta lumière.
Il n'y a pas de problème.
Et puis, je te souhaite bon jeu. J'aime beaucoup ta vision du jeu vidéo. Donc, continue comme ça. Enrichis-toi avec des jeux. Il y en a plein à découvrir. Éclate-toi et voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt, Mathis.
Merci à toi aussi et au revoir.
Alors, merci. Donc on passe à la dernière rubrique. Et quoi d'autre ce mois-ci? Et quoi d'autre pour finir ce mois-ci? Eh bien, je vais vous proposer une série qui est en train d'être diffusé. Il reste un épisode à l'heure où je vous parle. Il reste un épisode. Cette série, c'est The Last Man on Earth. Le dernier homme sur Terre. Alors, c'est l'histoire de Phil Miller. Phil Miller, c'est quelqu'un qui a survécu à une épidémie qui a tué tout le monde sur Terre. Et donc, ça commence comme ça, le premier épisode. En fait, Phil parcourt les États-Unis et, état après état, se rend compte qu'il n'y a plus personne. Alors, au cas où il va disséminer dans tout le pays sur d'énormes pancartes publicitaires Alive in Tuscan, donc en vie à Tuscan, qui est une ville en Amérique. Et du coup, une fois qu'il a fait tous ses états, il revient à Tucson, pardon. Il revient à Tucson et eh bien vit sa vie de mec tout seul. Et il va faire vraiment toutes les choses que ferait un mec seul, toutes les choses débiles que ferait un mec seul, comme par exemple, alors je vais pas tout vous spoiler, hein, mais par exemple une piscine de margarita. Je crois que c'est de la margarita. Enfin, une piscine d'alcool. Donc dans lequel il peut se baigner et en même temps se saouler. Donc voilà, c'est une comédie, hein, et là où cette série fait quand même assez fort, c'est que on se dit ouais ben voilà, écoute Coco, t'es bien gentil, mais t'es tout seul. Moi je vais le trouver où mon intérêt sur les 13 épisodes du truc. Alors ça va être très dur pour moi de ne pas vous spoiler le truc et de bien vous en parler, hein. Mais donc comment est-ce que tu vas me réussir à me tenir en haleine comme ça pendant 13 épisodes? Et en fait, à part deux épisodes, c'est vraiment le point fort de la série, c'est ça. On a un épisode. Alors le premier épisode, c'est un grand épisode double. Donc c'est le 1 et le 2 à la file. Il faut les regarder à la file, hein, parce que le premier épisode pose l'histoire. Et le deuxième épisode fait démarrer l'histoire. Donc, à la fin de chaque épisode, quasiment, on se dit, mais non, c'est pas possible, voilà, ça peut pas être pire. Et en fait, si. à la fin des épisodes, oui, on se dit, bah oui, c'est au prochain épisode, ça va être pire. Alors, en plus, il y a ce personnage de Phil Miller qui est vraiment très intéressant parce que c'est un personnage qu'on va aimer, qu'on va détester, qu'on va moi il m'a même donné envie d'arrêter la série pendant deux épisodes. Je me suis dit non, j'arrête, il m'énerve, c'est un connard fini. Et en fait c'est voulu. Et après ça, pendant deux épisodes, je me suis dit c'est un connard fini, c'est pas la peine, voilà. Et juste après, je me suis dit oh non, mais finalement ouais, il est sympa et voilà. Et on passe constamment comme ça d'un sentiment à l'autre. C'est vraiment chouette. C'est pas la série comique de l'année. Ça fait passer un bon moment. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Il y a des trucs qui sont un peu lourds. Ils sont arrivés à me surprendre au fil des épisodes. J'ai pas une surprise par épisode, mais j'ai souvent été surpris. Les choses auxquelles je m'attendais pas, auxquelles je m'attendais, mais que eux savent qu'on s'attend, donc ils vont me rajouter un petit truc. Et donc franchement, c'est bien foutu. Donc ça s'appelle The Last Man on Earth, donc le dernier homme sur Terre. C'est diffusé sur la Fox en ce moment. S'il y a 13 épisodes, le 12e épisode est sorti là tout récemment, donc le 13e, ça sera la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison 2, mais en tout cas, rien que cette première saison, sans connaître la fin de la saison, rien que cette première saison, moi je la conseille vivement. Ça fait passer un bon moment et je pense que beaucoup d'entre nous, alors c'est pas pour être cliché, hein, mais beaucoup d'entre nous, personnes de la gente masculine, un peu geek et enfin un peu dans leur grotte et voilà, vont se reconnaître au travers de certains aspects de cet empaffé de Phil Miller. Voilà. Donc, eh bien, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. On va se retrouver le mois prochain. J'espère que Arnaud ne sera plus malade, qu'il fera enfin beau chez lui et que qu'il n'aura pas d'allergie au pollen. Enfin, voilà, j'espère qu'il sera là. En plus, il m'a dit de quoi il voulait parler. Il a l'air très 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 emballé à l'idée de vous parler de ça. Mais ça ne m'a pas étonné. Sinon, bah, pour l'émission, eh bien, c'est sur papaaquoitujoues.fr, c'est sur iTunes. J'ai pas eu. On n'a pas eu notre petit commentaire du mois. J'étais triste. Donc, mettez-nous un commentaire si vous voulez qu'on soit un peu plus visible sur iTunes. Mettez-nous au moins des étoiles pour qu'on soit, pour qu'on remonte un petit peu dans les classements. On est sur SoundCloud aussi. Toujours le Flipboard que j'alimente bon an mal an. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Oui, le générique, bah, c'est toujours Skullbeats qu'il fait avec Retro Art 8 Sense Remix sur le site newsground.com. Vous pouvez commenter l'émission sur papaquatu.fr et consulter les notes de l'émission. Depuis le numéro dernier, je vais essayer de prendre cette habitude-là de faire des liens directs vers les différentes rubriques vers SoundCloud. Comme ça, vous cliquez sur la rubrique dans les notes de l'émission et vous arrivez directement dans la rubrique celle qui vous intéressera. Voilà, donc je vous dis ciao à tous, jouez bien, au mois prochain et faites un bisou à vos loulous. Ciao !